Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe.
Bonjour et bienvenue dans Sport en Sarthe avec un nouveau générique signé de notre technicien Evan Goetz. Une émission en partenariat avec le conseil départemental de la Sarthe qui met en avant la pratique du sport dans le département à travers ses différents acteurs, associations, structures et entreprises. Et aujourd'hui nous recevons l'entente ASCA Le Mans qui mélange donc l'équipe de volley de la Chapelle Saint-Aubin et celle du Mans. L'entente fait une très bonne première moitié de saison en National 3 avec 9 victoires pour une seule défaite. Puis nous serons avec la présidente, les deux coprésidents pardon, du JSC Twirling. Le club organise le championnat départemental de Twirling bâton. 100 athlètes venus de toute la Sarthe performeront pour espérer accéder au championnat régional. On commence sans plus attendre avec notre premier sujet du jour.
Radio Alpa, l'alternative.
L'entente UJS-ASCA Le Mans est en plein milieu du championnat de National 3 de volleyball. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont fait pour l'instant un très beau parcours. 9 victoires, dont 4 3-7 à 0 et seulement une défaite. Une performance qui a amené l'ASCA Le Mans à la première place de cette poule F pendant la trêve du championnat qui s'est achevée le week-end dernier avec une dernière journée de match aller, une journée où l'ASCA n'avait pas de match à disputer. L'ASCA Le Mans est talonné de très près par l'équipe de Tours avec 2 points de moins seulement. On fait un point sur cette mi-saison avec Benjamin Rigaud, président de l'ASCA et donc joueur au sein de l'entente ASCA Le Mans. Bonjour Benjamin Rigaud.
Bonsoir.
Alors pour rappel, en juin 2025, je recevais dans Sport en Sarthe l'ASCA qui venait de disputer sa première saison en National 3. Une saison qui était difficile, hein, mais l'ASCA était parvenu à se maintenir en 3e division. Et pour cette année, donc, l'ASCA ne se bat plus seul, mais avec Le Mans, car c'est bien une entente ASCA-Le Mans qui joue en N3 cette année. Pourquoi avoir décidé de jouer ensemble ?
Bah, c'était pour mutualiser en fait, des forces qui étaient intéressantes sur les deux clubs. Pour aussi permettre aussi un remplacement des joueurs qui arrêtaient aussi de chez nous.
Donc c'était nécessaire pour l'ASCA pour se maintenir en N3, vous pensez ?
Oui, on aurait peut-être pu se maintenir, mais on voulait faire plus que ça. Et c'était plus pertinent de faire quelque chose avec le club du Mans, avec qui on était déjà en discussion par le passé.
Et comment ça s'est passé, la mise en commun des deux équipes ? Ça impliquait d'apprendre à jouer avec de nouveaux coéquipiers ? Est-ce qu'il y a eu un temps d'adaptation ?
Oui, bah au début c'était un peu compliqué, bon, on se connaît par l'extérieur, mais de apprendre à se connaître sur le terrain et du même côté du terrain, c'est plus compliqué. Mais non, ça s'est bien passé, on a eu une petite période de rodage. Heureusement le calendrier était favorable de notre côté et ça nous a permis en fait de monter en puissance tout au long de la saison, de la première partie de la saison.
Alors, et donc effectivement concernant l'ASCA, cette saison n'a rien à voir avec la saison précédente hein, en termes de points. Est-ce qu'il faut uniquement remercier Le Mans ou bien du côté des joueurs de l'ASCA aussi il y a eu une progression?
Oui, c'est vrai que pour l'instant on s'en sort très bien, on est content de ça, c'est cool, c'était l'objectif. Je pense que les joueurs de l'ASCA qui ont joué l'année dernière en national amène l'expérience et donc ça permet de stabiliser l'équipe. Et après, on a les joueurs du Mans qui, eux, sont beaucoup plus jeunes et qui ramènent un petit peu de jeunesse et de fougue là-dedans. Donc c'est vraiment un bon mélange entre les deux clubs et l'équipe vraiment tourne bien grâce à ça. Ouais.
Et alors, est-ce que vous avez pu l'emporter sur certaines équipes qui vous avaient battu la saison précédente ? Est-ce que vous avez pu prendre quelques revanches ?
Oui, au final, l'année dernière, on se sauve in extremis, donc on a perdu beaucoup de matchs. Donc là, oui, on a pris beaucoup de revanches sur pas mal d'équipes.
Ouais. Est-ce que c'était contre les mêmes équipes exactement l'année dernière ?
Quasiment, ouais, le tirage de la poule est similaire.
Et en tout cas, c'est un sacré parcours, hein, 9 victoires, la moitié avec tous les 7 remportés. Qu'est-ce qui explique ce parcours quasi sans faute ? Où est-ce que vous vous démarquez en fait dans vos matchs ?
Je pense que sur la partie arrière où on est en réception ou en défense, c'est vraiment très solide par rapport à l'année dernière. Et ça nous permet derrière, après, au niveau de l'attaque, d'être plus en situation de confort et de marquer nos points en fait.
Et alors ça a été des victoires assurées ou bien vous avez rencontré comme des difficultés ? Vous parlez d'un calendrier favorable, c'est-à-dire ?
On va dire que ceux qu'on a rencontrés en début de saison sont ceux qui sont actuellement en bas de tableau, qui sont des équipes qui sont plus faibles et ça nous permet en fait nous de monter en puissance et de jouer plus libéré. Après on a quand même réussi à se faire peur quelquefois en faisant des 3-2 ou en sortant in extremis des 7.
Il y a un match que vous avez en tête où particulièrement ça a été plus difficile ?
Bouguenay, même si on gagne 3-1 par exemple, on n'est pas loin de perdre le match, ça peut se renverser à n'importe quel moment. La Rochelle, c'est pareil. Il y a un joueur qui se blesse en face qui était très fort à ce moment-là. Donc, bah, pareil, ça nous remet dedans. Ouais.
Et vous avez identifié les points peut-être sur lesquels vous pourriez encore travailler ?
Il faut qu'on travaille encore beaucoup sur le collectif. On est sur un collectif qui est jeune, qui se connaît très peu en fait. 50% des joueurs sont d'un club et 50% de l'autre. On n'a jamais joué ensemble. Donc 3-4 mois ensemble, c'est pas suffisant. Une équipe, elle monte en puissance au bout de 3 ans, on va dire, une fois qu'elle se connaît parfaitement.
Et donc vous pensez qu'il y a un réel potentiel de cette équipe, une fois que effectivement vous connaîtrez bien entre vous, que vous saurez bien comment jouer ensemble ?
Ouais, je pense qu'on peut faire mieux, et je pense que c'est l'envie de tout le monde, de tous les joueurs, de pouvoir s'améliorer encore et de pouvoir gommer encore quelques erreurs afin de continuer de travailler et progresser ensemble. Ouais.
Pour l'instant, seule demeure une équipe d'irréductibles gaulois, les Tourangeaux, rencontrés le 2 novembre, défaite 1-3. Ils sont d'ailleurs deuxième là, dans le classement, juste derrière vous, avec 2 points d'écart seulement. Pourquoi ça n'est pas passé cette fois ?
C'est des grosses écuries, on va dire. Et jouer dans une salle de professionnels, où en fait c'est la salle des pros, je pense que ça a fait peur à beaucoup de monde. Nos jeunes, par exemple, ils ne sont pas habitués à jouer dans des salles où bah, y a 15 mètres de plafond, y a pas, ça ne résonne pas, il n'y a pas un bruit, etc. Et je pense que ça a perturbé beaucoup l'équipe. On verra le match quand on sera à Poitiers. Pareil, on va jouer dans la salle des pros. C'est... Même s'il n'y a pas les pros, même si tout ça, il y a quand même une pression sur les épaules et ça peut être compliqué à gérer.
Ah, vous pensez que ça pouvait être une explication psychologique plus que technique peut-être ?
Ouais, parce qu'on est... Techniquement, on est à armes égales et je pense qu'on a hâte de les recevoir pour pouvoir en découdre parce qu'on était frustrés au final de ce match-là parce qu'on n'a pas fait un bon match.
Donc vous êtes plus confiant sur le retour du coup ?
Ah, on l'espère, on verra bien.
Bon, en tout cas, cette défaite, hein, ça ne vous a pas empêché d'arriver à la première classe du tableau de la poule F pour finir l'année 2025. On s'étonne quand même de la réaction de votre coach après votre dernière victoire contre Rosé, qui vous a donc placé en tête. Donc on le cite, la première place du classement reste anecdotique. Vraiment anecdotique, pourquoi ?
Parce que l'objectif du JS, c'était de monter un collectif et de travailler sur une stabilité. Pour pouvoir après derrière structurer les clubs pour alimenter cette équipe là et que nos jeunes dans le futur ils puissent évoluer à un niveau national en Sarthe. Donc oui, c'est toujours grisant de pouvoir être à la première place, mais l'objectif principal c'était de travailler sur du collectif, de travailler sur un maintien de l'équipe en national et derrière de pouvoir travailler sur nos jeunes. Donc c'est pas l'objectif principal et c'est pour ça que oui, on le garde d'un coin de côté, c'est toujours grisant et on est super content, mais c'était pas l'objectif de base et voilà.
Vous seriez quand même bien content de finir premier de votre poule à la fin de la saison, j'imagine.
C'est pas simple, parce que qui dit premier dit monter en National 2, dit budget supplémentaire.
C'est pas l'objectif pour l'instant.
Ouais. Voilà, c'est un budget qui, on va dire, est deux fois plus important que la National 3. Il faut que derrière les structures elles suivent, que les trésoreries elles suivent. Donc voilà, c'est pour ça, on n'est pas...
Mais j'imagine que vous pouvez refuser de monter en National 2, même si vous arrivez à la première place, non ?
J'ai contacté la fédération, je suis pas sûr.
C'est pas certain.
Je pense que c'est obligatoire. Et donc, voilà.
Donc là, ça demande de trouver des fonds, effectivement.
Voilà.
En tout cas, le championnat a repris le week-end dernier, mais vous n'avez pas eu de match à disputer sur cette journée-là. Votre prochaine rencontre, ce sera le 25 janvier contre Montaigu à nouveau. Donc c'est le début des matchs retour. Comment vous envisagez ce match et la suite de la saison ?
Bon, Montaigu, c'est la lanterne rouge. Donc on va dire que sur le papier ça devrait aller. Je pense que la chose qui par contre va pas aller, c'est que nous on est quasiment invaincus et que toutes les équipes vont avoir une seule envie, c'est de nous battre. Et donc chaque match va être compliqué en fait.
Donc là encore il y a de nouveau l'enjeu psychologique qui intervient.
Oui c'est ça, et puis bah, Montaigu ils veulent se sauver, donc bah, ils ont envie de gagner. Donc ça va être, je pense que tous les matchs ils vont être à prendre un par un et au sérieux.
Et puis il restera donc le gros adversaire, un Tour qui pour l'instant est le dernier adversaire que vous n'avez pas vaincu. Je vous remercie Benjamin Rigaud, président de l'ASCA et joueur au sein de cette entente ASCA Le Mans. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Radio Alpa, l'alternative.
On poursuit cette émission avec notre deuxième sujet, dimanche 25 janvier, au gymnase Camus de Coulaines. 100 athlètes venus de toute la Sarthe participeront au championnat départemental de twirling bâton, un championnat organisé par le club de twirling des jeunesses sportives de Coulaines. Mais qu'est-ce que c'est le twirling et comment va se dérouler cette compétition? On vous en dit plus avec Audrey Ménager et Arnaud Buronfos, coprésident des JSC Twirling. Bonjour à vous.
Bonsoir.
Alors, il faut dire qu'effectivement, ce n'est pas un sport encore très connu, hein, le twirling bâton en France. En revanche, c'est très populaire au Japon. En tout cas, en Sarthe, on a donc le JSC Twirling, anciennement les Amazones de Coulaines. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce sport et à quoi ça ressemble?
Alors, le twirling bâton, c'est une discipline à la fois sportive et artistique qui mélange danse, gymnastique, tout avec en même temps un maniement du bâton. Donc, le bâton qu'on peut souvent associer aux majorettes, était plutôt connu avant, plus connu que le twirling bâton en tout cas, mais on a seulement gardé leur accessoire et en fait comme la gymnastique rythmique, on peut faire des chorégraphies en solo, en duo ou en équipe, en compétition, qui peuvent aller du départemental au régional au national, sachant que les sélections se font uniquement du régional au départemental, au fédéral pardon, au championnat de France.
Et alors le bâton en question, qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce qu'on peut le décrire un peu pour qu'on voit bien à quoi il ressemble?
Alors, le bâton, c'est une barre en fer qui est entourée de grippes, un peu comme au tennis. Donc, c'est du grip noir que l'on met dessus pour pouvoir bien le tenir et qui est au bout mis par ce qu'on appelle un tip et une balle. Donc, c'est deux embouts, en fait, qui permettent d'équilibrer le bâton. Donc, il y en a un plus gros et un plus petit.
Et alors, quel genre de figure est-ce qu'on fait avec ce bâton?
Les figures sont assez multiples parce que ça peut aller dans tous les axes. On peut faire des figures qui allient en même temps le corps. On peut lancer le bâton en l'air et faire des figures gymnastiques en dessous ou tourner en dessous. On peut aussi avoir des mouvements où le bâton nous roule sur les épaules, sur les bras.
Oui, en fait, voilà. Pour une bonne prestation, il faut essayer de jouer avec toutes les parties du corps, pas seulement les mains.
Exactement. Plus on va réussir à allier le corps, le bâton, les artistiques, les regards avec les juges, plus on va pouvoir marquer de points, entre guillemets.
Et d'ailleurs, quand on regarde des prestations, l'athlète ne se contente pas de faire des figures avec le bâton. Il y a une grande partie qui est dansée aussi.
Exactement. En fait, nos chorégraphies, quand on choisit la musique, on choisit aussi un thème avec les athlètes qu'on va avoir. Et le but, c'est vraiment d'incarner ce thème, de raconter une histoire. Et les points pour les notes que l'on peut obtenir à la fin de notre passage, ils sont aussi notés d'un point de vue artistique. C'est-à-dire que si vraiment on fait des mouvements artistiques au niveau de la danse qui sont sur des moments bien particuliers de la musique ou sur des paroles particulières si on utilise par exemple du parler français, ça va vraiment raconter encore plus une histoire à travers notre danse et nous rapporter encore plus de points.
Oui, et puis j'ai même vu qu'il y a des costumes de scène sur certaines prestations, donc c'est une performance, mais c'est aussi un spectacle en fait.
C'est ça, c'est vrai que... Alors, on essaye dans notre fédération de montrer qu'on n'est pas non plus trop autour du spectacle parce que ça reste avant tout une discipline sportive. C'est pour ça que dans les notes, la tenue, elle rentre vraiment pas du tout en compte. Chacun est libre de se faire une tenue avec beaucoup de paillettes ou pas beaucoup de paillettes. Mais ce qui rentre en compte, c'est vraiment le maniement technique et le côté artistique.
Et donc oui, cet alliage justement entre maniement technique et artistique, et puis quand on regarde un peu ces prestations, on pense quand même assez vite à ce qu'on peut voir dans les spectacles de cirque par exemple. C'est un art circassien à la base?
Non, c'est pas circassien du tout. C'est vraiment... il est né à travers c'est un mélange entre les majorettes et vraiment la gymnastique, mais ça appartient pas au cirque. Mais c'est vrai qu'on peut voir dans plusieurs sports, enfin même au cirque, des personnes qui commencent vraiment à faire du sport avec ce qui s'apparente au bâton de twirling, mais de manière beaucoup plus grande. Et du coup, les personnes font assez vite le lapsus entre le côté cirque et le côté twirling bâton.
En tout cas, d'après la Fédération française de twirling, 90% des 23 000 licenciés en France, quand même, 90% de ces 23 000 licenciés sont des femmes. Le twirling, il est donc essentiellement pratiqué par des femmes. Est-ce que les hommes aussi sont présents dans ce sport? Comment ça se passe?
Tu veux ajouter ta voix?
Non,
du coup, le twirling, on a aussi des hommes qui ont exactement les mêmes chorégraphies, enfin qui peuvent avoir les mêmes chorégraphies que nous, qui sont notés exactement comme nous. Bien évidemment, on a des catégories féminines et des catégories masculines, mais on en trouve peu, mais on en trouve quand même. Et je trouve qu'avec les années, là, ça se développe de plus en plus. On commence à voir grandir les catégories masculines et ça fait vraiment plaisir à voir parce que ça reste un autre twirling qui est différent du coup, et ça nous permet de voir des chorégraphies un peu différentes sur des thèmes différents, donc c'est vraiment cool.
Voilà, pour le moment quand même c'est très majoritairement des femmes. Est-ce que les compétitions sont pas mixtes pour autant?
Non, c'est pas... Les catégories sont vraiment un côté féminin, un côté masculin, sauf si on fait des duos et des équipes. On peut être mixte, on peut y avoir dans le duo une fille et un garçon, et dans les équipes aussi ça peut être mélangé. C'est vraiment côté solo, quand on s'affronte en solo, il y a une catégorie féminine et une catégorie masculine.
Et vous savez pourquoi en individuel c'est pas mixte du coup ? Il y a une raison spécifique à ça ? C'est traditionnellement les compétitions sont pas mixtes ou...
Ça relève principalement du côté traditionnel.
Ok, il n'y avait pas plus d'explications que ça là-dessus. Non. Okay. Alors étonnamment aussi, quand on cherche des images, des vidéos de compétition ou d'entraînement, on remarque que ce sont surtout de très jeunes filles qu'on voit pratiquer, des enfants ou des ados. Ça reste un sport pratiqué essentiellement par les jeunes alors ?
Ça reste en effet principalement pratiqué par les jeunes, dans le sens où déjà les jeunes ont un peu plus de temps à consacrer aux entraînements sportifs parce qu'ils ont moins d'impératifs professionnels ou familiaux ou au niveau des études. Mais on a quand même des personnes qui continuent de concourir en étant un peu plus âgées. Moi, autour de moi, j'ai des amis qui continuent à concourir qui ont 35 ans, qui ont 30 ans et ça fonctionne quand même. Donc non.
Et donc le 25 janvier, c'est le championnat départemental de twirling bâton. C'est les JSC qui sont chargés de l'organisation. Pourquoi ça ? Est-ce que les JSC ont une certaine place dans le twirling en Sarthe ?
Non, c'est juste qu'au niveau du département, on essaye de tourner entre les différents clubs. Voilà, ça s'alterne.
D'accord, c'est du hasard globalement.
Bah voilà, c'est vraiment, on a des réunions en fait qui sont organisées. On se dit qui veut organiser le départemental cette année et puis... Voilà, qui veut se propose.
Et donc une compétition qui fait intervenir 100 athlètes sartois, ça représente combien de clubs en fait dans le département ?
Alors là, on est sur 4 clubs au total.
Ah, il y a 100 athlètes pour 4 clubs seulement ?
Oui, c'est ça. C'est juste qu'il y a des clubs qui sont plus conséquents que d'autres.
Et est-ce que votre club, il concourt aussi au niveau régional, voire national ?
Oui, on est au niveau régional et on espère pouvoir atteindre les sélections au niveau fédéral.
Et alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu comment va se passer du coup cette compétition du 25 janvier ? Donc là, on est sur une compétition individuelle. Que vont devoir faire les athlètes ?
Alors, les athlètes, là, vu qu'on est sur le côté individuel, elles vont venir présenter leur chorégraphie face à un jury. Donc, elles vont faire leur chorégraphie. Ensuite, à la fin de leur passage, on va pouvoir leur annoncer des notes. Donc, il y a deux notes qui sont annoncées. Une note technique qui intègre exclusivement le maniement technique du bâton. Et une note artistique, donc qui est vraiment sur le côté montage chorégraphique, si ça respecte la musique, les temps forts. Et sont déduits de cette note les points au niveau des chutes. Si on fait tomber le bâton, ça nous apporte des pénalités, en fait.
Ah oui, alors ça c'est important parce que c'est vrai que quand on gagne les figurines, des fois le bâton est jeté très très haut sur une longue durée en plus, il faut savoir bien le réceptionner dans ce cas.
C'est ça, donc ça demande beaucoup de rigueur et d'entraînement pour pouvoir maîtriser ces figures.
Il y a une dimension artistique importante à prendre en compte, vous l'avez dit, chaque prestation doit donc avoir une chorégraphie unique, il y a une forme de performance artistique. Quoi.
Complètement, et plus les filles vont avoir des chorégraphies qui sortent un peu du lot, qui ont des thèmes un peu particuliers, plus ça va forcément taper dans l'œil des juges. Et plus on peut avoir de meilleures notes en niveau artistique.
Vous disiez tout à l'heure qu'il faut raconter une histoire. Par contre, il n'y a pas le droit à la parole, j'imagine ?
Non, du tout. C'est vraiment raconter l'histoire à travers le corps, à travers les expressions corporelles et au niveau du visage.
Alors dans le twirling, on en a parlé, il y a aussi des compétitions en duo et en équipe. Ça se passe de la même manière ? C'est un petit peu différent comment...
Non, ça se passe de la même manière. C'est vraiment divisé en départemental, régional et fédéral. Et c'est juste qu'en fait, nous, notre saison, elle commence principalement côté solo. Donc là, on commence vraiment seulement les compétitions solo. Et à partir du mois de mai, on va commencer les compétitions équipe et duo.
Et les JSC participent aussi à ces compétitions alors ?
Oui, évidemment.
Et alors c'est quoi les prochaines échéances pour vous ?
Alors là, donc on a le départemental le 25, et ce qui va être très important ensuite, c'est le régional solo le 14 et 15 février, où là, on espère que nos athlètes vont réussir à bien se classer, avoir de bonnes moyennes pour pouvoir atteindre le championnat de France.
Bon, Arnaud Buron-France, on vous a peu entendu, vous veniez pour parler d'un aspect spécifique ?
Non, pas du tout, mais comme Audrey s'exprime tellement bien que c'est un plaisir de l'écouter, donc moi je suis un petit peu en retrait, mais je suis toujours bienveillant envers que tout se passe bien, que tout se déroule bien. Donc j'accompagne cette superbe équipe de twirling dont ma fille en fait partie et des filles qui sont vraiment investies et qui donnent vraiment beaucoup de leur temps.
Votre fille va participer au championnat du coup du 24 ?
Non, Manon est maintenant trésorière, elle a un petit peu, pas abandonné le twirling, mais tout du moins la compétition pour ses études. Mais elle accompagne tous les mercredis et samedis le club et la trésorerie pour que le club soit bien tenu. Et c'est toujours un plaisir de venir voir les entraînements.
Et elle en a fait combien de temps du twirling, votre fille ?
Manon, elle a dû faire 12 ans de twirling, je crois, pendant 12 ans. Ouais. Mm. Ouais, ouais, ouais. Elle a commencé toute petite, donc elle m'a embarqué dans, dans cette aventure que je suis depuis très longtemps. Et avec Audrey, nous avons repris la présidence du club il y a peu de temps. Audrey, il y a 2 ans, moi, il y a 1 an pour l'accompagner. Donc je suis le bienveillant pour que tout se passe bien et vraiment les accompagner. Et vraiment qu'on devienne un club grand. Voilà, c'est important.
C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que c'était un sport dominé principalement par les femmes, mais finalement, vous êtes très... Alors, sans en pratiquer, vous êtes très impliqué finalement dans la vie du club.
Oui, alors je suis le seul garçon, il faut le dire. Je suis le seul garçon. Enfin, on a quand même
Francis
hein, qui est juge. Mais c'est avant tout, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et c'est vraiment une passion et c'est tellement magnifique de toute beauté à voir. C'est vraiment un vrai spectacle, c'est vraiment quelque chose. Les filles vont vraiment très très loin, une concentration, une pression énorme. Donc il y a un gros travail sur ça qui est vraiment, vraiment important, où il y a une concentration et chaque erreur... Il faut tout de suite se remettre en question, tout de suite reprendre la compétition. Donc c'est vraiment quelque chose à connaître et à découvrir. Parce qu'on va vraiment au-delà de soi-même par la concentration. C'est vraiment un sport...
Qui gagnerait à être plus connu.
Ah, oui, complètement, complètement.
Ça vaut le détour.
Mmh, ça vaut le détour.
Je peux confirmer d'ailleurs pour être un peu allé voir pour préparer cette interview. Je vous remercie en tout cas Audrey Ménager ainsi qu'Arnaud Buron-Faust, tous deux coprésidents des JSC Twirling. Et on le rappelle donc, le championnat départemental de Twirling Bâton, ce sera le 25 janvier au gymnase Camus de Coulaines. L'entrée pour le public est à 2 € gratuite pour les moins de 6 ans. Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Radio Alpa, l'alternative.
C'est la fin de Sport en Sarthe. Merci d'avoir écouté cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast sur radioalpa.com, dans les infos de la rédaction, avec tous les numéros précédents. On se retrouve lundi 12 janvier pour 19 janvier pardon, pour C'est d'Actu sur Radio Alpa, bien évidemment.